Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi, j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Mais enfin, c'est un passé. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le Parti d'Anjouet vous accueille comme chaque dimanche soir à cette heure exquise pour recueillir les confidences des musiciens dont on dit qu'ils sont jeunes. On y associe généralement l'idée que le talent est inversement proportionnel à leur jeune âge, comme si l'un allait forcément avec l'autre. Mais au-delà du commerce, c'est parce qu'il n'y a rien d'évident à cela que le Parti d'Anjouet essaye de comprendre ce qu'être musicien veut vraiment dire pour eux. Faire de la musique sa vie a forcément à voir avec le sens et avec l'existence. Chaque dimanche soir, on refait le tour de leur monde expressif et très personnel. Ce soir, j'ai l'immense plaisir d'accueillir un compositeur. Bienvenue à Arthur Lavandier. Bienvenue à vous toutes, bienvenue à vous tous.
Avez-vous une lavandière comme il y en a au Portugal? Surtout celle de la rivière, de la ville de Santoubal. Ce ne sont vraiment pas des lavoirs. Il faut les entendre et les voir,
rythmer leur chant de leur battoir.
Tant qu'il y aura du linge à laver, on boira de la manzanille. Tant qu'il y aura du linge à laver, des hommes on pourra se passer.
Ben oui, peut-être qu'à l'issue de ce Parti d'Anjouet, vous dormirez mieux ce soir. Arthur Lavandier, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Comment allez-vous ?
Mais fort bien, et vous-même ?
Eh bien très bien. Lavandier, ça vient de quel coin en France ?
Alors, je serais bien incapable de le dire. Je pense que ça vient plutôt du centre, mais voilà, je n'en dirai pas plus.
Mmh. Vous aimez les vacances ?
J'aime bien ça, oui.
Compositeur, c'est être tout le temps en vacances ?
Si peu. Non. C'est plutôt être jamais en vacances, en fait. Et être tout le temps en vacances en même temps, je ne sais pas. Je n'ai jamais vraiment réussi à répondre à cette question. Mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose beaucoup.
Vous travaillez beaucoup ?
Oui.
Ça ressemble à quoi, une journée d'un compositeur ?
Ça peut prendre pas mal de formes différentes. Ça peut être très intense et commencer le matin très tôt. Comme ça peut commencer à 2h du mat. Il n'y a pas vraiment de rythme particulier. Le problème, c'est que quand on est soumis à l'inspiration, on ne peut pas vraiment avoir de régularité dans le travail.
Ça existe encore, l'inspiration, aujourd'hui, en 2014 ?
Oh bah oui, heureusement. Oui. Quoi qu'il arrive, je pense qu'elle est là.
Mais ça naît de quoi ? De situation ?
Oh, j'aimerais bien. Je sais pas. Je pense que c'est la question que tous les compositeurs se posent. Honnêtement, je ne sais pas s'il faut pouvoir répondre à cette question. Ça reste mystérieux et c'est ça qui est bien.
Est-ce qu'il n'y a pas parfois une inspiration forcée ?
L'inspiration, je pense qu'elle est toujours de toute façon reliée à la vie, à l'expérience, à la mémoire, aux rencontres, tout ça. Mais forcée, non, je ne sais pas.
Ou une éducation de l'inspiration, compositeur ?
Est-ce qu'il y a une inspiration occidentale ? Est-ce qu'il y a une inspiration parisienne ? Oui, sûrement. Mais est-ce que c'est très important ?
Est-ce que vous êtes un émotif, Arthur Lavandier ?
Oui. Oui, très clairement, oui.
Alors, bienvenue à vous dans votre Parti d'Anjouet qu'on ouvre avec... je vous remercie d'ailleurs pour la redécouverte de cet album absolument génialissime. Gil Evans, album The Individualism of Gil Evans, et surtout ce titre, Las Vegas Tango. Écoutez bien, c'est génial.
Thank you.
bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans le Parti d'Anjou et qui s'ouvre sur cette musique absolument incroyable de Gil Evans, Las Vegas Tango avec une Dream Team. Casting de malade, on peut le dire, Elvin Jones, Paul Chambers, Eric Dolphy, Wayne Shorter, Steve Lacy, Gary Peacock, etc. Et surtout Kenny Burrell que vous avez entendu à la guitare. C'est une musique que vous nous faites redécouvrir. Arthur Lavandier, vous êtes compositeur, quel âge avez-vous ?
J'ai 27 ans.
Et compositeur depuis quel âge ? Il y a toujours ce mythe de
oui.
Quand avez-vous écrit la première note ?
Je crois que c'était à 11 ans.
Et du jazz à la maison alors ?
Oui, en fait mon père est compositeur, mais il était avant tout pianiste de jazz. Du coup il y a toujours eu du jazz à la maison. Alors pas forcément ce type de jazz, mais ça a toujours quand même été dans mon oreille assez tôt en tout cas.
Alors, avec cette musique-là, il y a l'idée d'orchestration, d'arrangement, de spatialisation, d'assimilation, d'intégration de chaque timbre dans cet espace sonore absolument inouï. Mélange d'une tradition écrite avec une tradition d'improvisation, donc une sorte de classicisme quoi, qui naît
sûr,
de cette forme.
Je pense que c'est pas pour rien que moi, en tant que compositeur et arrangeur, que cette musique me plaise particulièrement. Il y a quelque chose qui me plaît beaucoup, c'est que c'est une musique qui est à la frontière vraiment entre la musique, ce qu'on appelle la musique savante et le jazz. Et il y a une écriture qui est extrêmement, une écriture très complexe, une écriture pour les timbres, les arrangements, les accords, la façon dont il utilise les instruments, la façon dont il rapporte des instruments qui ne sont pas des instruments du big band. Il y a du cor, il y a du hautbois, il y a de la harpe. Voilà, tout ça fait que c'est une musique extrêmement riche, subtile et pourtant tellement...
Deux accords.
Ouais, tellement simple.
Deux accords.
Ouais, ouais. Et ce qui est génial, c'est qu'on n'a plus les partitions. Enfin, presque plus. On a presque tout perdu. Du coup, ça rajoute...
Mais pourquoi ? Parce que Gil Evans jetait ses partitions ?
Alors, je ne sais pas qui jetait les partitions, mais je sais qu'il ne les gardait pas à la fin des sessions d'enregistrement, en tout cas. Donc, du coup, aujourd'hui, les seules traces qu'on peut avoir écrites, c'est des gens qui reprennent à l'oreille cette musique. Donc, ça rajoute une dimension presque mystique, mystérieuse. Et avec un son qui est aussi riche et aussi complexe, c'est sûr que voilà, ça joue évidemment.
Voilà, vous nous le disiez, Arthur Lavandier, et là, ça va partir en swing.
Mais oui, c'est le meilleur passage.
Oh, incroyable.
Qu'est-ce que j'aime.
Est-ce que vous reconnaissez, d'ailleurs, de votre côté du poste ? On n'a pas le téléphone, on n'est pas en ADSL, mais ça parle de travaux, pas forcément de compositeur, quoique. Astérix pourrait être, d'ailleurs, compositeur dans le profil.
Mais oui, mais bien sûr.
Les 12 travaux d'Astérix, musique de Gérard Calvi. Alors, comment faut-il l'entendre, Arthur Lavandier ? Parce qu'on commence fort, là, quand même, après Gil Evans.
Oui. C'est une musique que j'aime énormément. Déjà parce que ça me fait beaucoup rire, et je pense que c'est très important. Mais en plus, parce qu'on parlait tout à l'heure de richesse d'arrangement. Et si on... Pardon, il y a la fin. Si on écoute, effectivement, c'est très, très bien arrangé. C'est pas du tout grossier comme travail. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a une subtilité et une richesse qui est au service de quelque chose d'assez léger. On n'est plus du tout dans la même atmosphère que Gil Evans. Mais voilà, on a ce mélange entre entre la tradition classique et quelque chose d'autre qui est l'univers audiovisuel des années 70. Et je trouve ça vraiment génial.
Est-ce que composer passe forcément par l'écrit ?
Oh, c'est dur comme question.
Par rapport à ce que vous disiez, par rapport aussi à Gil Evans qui jetait ses partitions, une fois que la chose sonore conçue sur le papier, conçue mentalement, mais couchée sur le papier, avait été enregistrée. C'est-à-dire comme si elle était revenue à sa vraie vie, à sa vraie condition. Parce qu'il y a une sorte de fétichisme, quoi.
Ouais, c'est sûr que l'enregistrement a changé pas mal de choses là-dedans, dans le sens où on n'est plus obligé de passer par l'interprétation pour faire vivre une œuvre, ça c'est sûr. Après, est-ce que la composition passe forcément par l'écrit quelque part? Oui, en tout cas en Europe occidentale, oui. Oui, je pense que oui, parce qu'il y a tout un travail de recherche. En même temps, on connaît des compositeurs qui essayent de passer par d'autres moyens. Donc je pense qu'en même temps, le fait que ça a été si, justement, quelque chose qui passait tellement par l'écrit, ça a dû aussi être une source d'inspiration pour pas mal de gens qui devaient se dire si on pouvait essayer de trouver d'autres moyens. Moi, de mon côté, ça passe par l'écrit. Alors, parfois, j'utilise des systèmes de notation différents. Parfois, voilà, j'essaie de trouver d'autres moyens. Ou alors, ça passe par d'autres moyens de, comment dire, des partitions sonores. J'ai fait une pièce avec des enfants qui devaient chanter des notes qu'ils entendaient au casque sans avoir de partition. Alors, dans ce cas-là, effectivement, on ne passe pas par l'écrit pour les interprètes. Mais par contre, moi, de mon côté, il y a quand même un couchage sur papier, quoi qu'il arrive.
Est-ce que vous avez déjà dit « je t'aime » ?
Oui.
Et vous l'avez regretté ou pas ?
Non, 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 non.
Alors voilà la vie de Serge Gainsbourg.
Manon, Manon, non, tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point je hais ce que tu es, sinon, Manon, je t'aurais déjà perdu, Manon, perverse Manon. Manon, il me faut aimer avec un autre. Je le sais, Manon, cruelle Manon. Manon, Manon, non, tu ne sauras jamais, Manon, à quel point je hais ce que tu es, au fond.
Et cette magnifique longue résonance du piano, Manon de Serge Gainsbourg dans votre partie d'en jouer, Arthur Lavandier, extrait en fait musique d'un film Manon 70, pas extraordinaire, hein, de Jean Aurel, mais surtout avec deux personnages, Catherine Deneuve et Samy Frey, absolument magnifique. Qu'est-ce que cela vous évoque, vous, cette science toujours de l'arrangement?
C'est quelque chose qui est très important pour moi. Bon, je pense que effectivement, je suis arrangeur, donc évidemment, ça me parle particulièrement. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai toujours trouvé fascinant, l'incursion du classique dans d'autres milieux, dans d'autres musiques. Et je trouve que dans cette chanson, c'est particulièrement bien réussi, même si ça frise avec le too much. Mmh. On est vraiment à la limite. Il y a des appoggiatures, des retards dans tous les sens, on dirait une passion de bac. Mais quand c'est assumé comme ça, quand on sent que c'est un geste musical, que c'est une décision qui a du sens pour le compositeur et pour l'arrangeur, j'adore. Je trouve ça génial.
Vous avez déjà travaillé avec des chanteurs de pop ou de variété ?
Un peu. Pas assez, je pense. Ça va venir.
Quand on s'est rencontrés, vous me disiez, Arthur Lavandier, que la première chose écrite, c'est à 11 ans à peu près, mais que c'était lié à l'idée de mettre à la fin d'une œuvre, même si elle est très courte, un peu à la Webern, ou une double barre à la fin.
Mmh.
Est-ce qu'on est content ? Dans quel état émotif on est quand on finit une œuvre ?
Ça dépend de beaucoup de choses. Et je dois avouer que ça dépend aussi de à quel point on est en retard pour le rendu d'une œuvre. Non, mais sérieusement, c'est une satisfaction qui est presque indescriptible. Enfin, le sentiment de l'œuvre finie, il est rare déjà, parce que c'est rare de finir une pièce et de se dire « ça y est, j'ai plus rien à faire sur cette pièce ». C'est très rare. Quand ça arrive, je sais pas comment dire, c'est beau, énormément de plaisir.
Mais du coup, on a presque l'impression que ça change de statut, c'est-à-dire que cette chose qui est work in progress,
oui, bien
que
sûr,
vous pouvez modifier en permanence dans le processus de composition, il y a un moment, s'arrête. Et alors vous passez de l'autre côté, c'est-à-dire vous êtes quasiment obligé de la considérer autrement pour ne pas
exactement avoir
envie de la retoucher.
Il y a quelque chose de très étrange qui se passe, c'est que moi en tant que compositeur, et je pense que c'est pareil pour tous les compositeurs, on n'est plus c'est comme si l'œuvre ne nous appartenait plus vraiment. Et ce qui est génial, c'est que l'œuvre, du coup, la pièce passe dans quelque chose qui est la vie de l'œuvre elle-même, et surtout qui passe dans l'interprétation et dans le rapport à la vie réelle, finalement. Et ça, je pense que c'est effectivement une étape qui est extrêmement importante dans le processus, et que il y a quelque chose d'un peu délicat, d'un peu difficile émotionnellement, je pense, pour un compositeur dans le fait de laisser partir une œuvre comme ça. Mais je pense que c'est très important et qu'il faut passer par là.
Numbers de Kraftwerk, absolument incroyable, la jouissance qu'on peut éprouver à l'écoute de la beauté de ces sons. Et c'est une culture, Arthur Lavandier, qui vous accompagne en fait depuis tout gamin.
Oui, oui, oui. Mes parents écoutaient beaucoup de Kraftwerk, Depeche Mode aussi et de Prince. Mais c'est vrai que c'est une musique que j'ai toujours entendue et qui m'a toujours fasciné. Je pense que depuis tout à l'heure, on parle un peu de musique qui sont à la frontière. Kraftwerk, on est encore là-dedans, hein, très clairement. Dans autre chose, dans la recherche sur la structure, sur la forme, dans le fait d'avoir une pensée formelle classique dans un milieu qui est celui de la pop et qui est en plus le milieu balbutiant de l'électro des années 70. Et en plus de tout ça, et je pense que c'est ce qu'il faut mettre au sommet, c'est le fait qu'ils sont vraiment inscrits dans une démarche de recherche musicale très très forte à l'époque. Et d'ailleurs, en faisant ces albums-là, ils changent le monde.
Est-ce que le classicisme vous fait peur, vous, Arthur Lavandier, compositeur ?
Alors, définissez classicisme.
Alors, normalement, on dit qu'il a atteint en une époque une forme de perfection, une perfection à double tranchant.
Mmh.
C'est-à-dire que ça laisse la place au saisissement de l'œuvre elle-même par tout le monde. C'est-à-dire un côté, quand on n'est plus iconoclaste, on devient une icône.
Mmh.
Et donc, on prête le flanc à la caricature. Non, je vous dis ça parce que vous avez suivi des études au CERF de Boulogne, piano, alto, écriture. Vous avez passé, je crois, le concours de CNSM. Vous y êtes rentré, mais pas en composition.
Non, en écriture.
Aussi. En écriture.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que je demande
oui,
ça.
Oui, effectivement. Que... Oui. Non, je comprends. Alors, plusieurs choses. Je pense que, en mettant le classicisme de côté pour l'instant, l'écriture, ça m'attirait comme le travail de l'arrangement m'attirait. Parce que c'est un travail sur les possibilités, sur les contraintes, sur la combination. Voilà, il y a quelque chose d'assez mathématique, finalement. Et je crois que ça m'a toujours beaucoup plu. Et puis, c'était une façon aussi d'aborder plusieurs types de répertoires d'une manière extrêmement personnelle. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me plaît aussi. Je préfère, effectivement, m'atteler à la tâche absurde d'écrire du faux Stockhausen plutôt que d'analyser une partition. Bon, enfin, je dis ça, non, c'est pas exactement vrai, mais il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et c'est vrai que dans les années que j'ai faites au CNSM, de la classe d'écriture, notamment par exemple quand on étudiait la musique de la Renaissance, ça m'a permis de découvrir cette musique et de l'apprécier d'une manière très particulière parce que c'est une manière que je m'étais faite mienne presque. Et je pense que pour un compositeur, c'est important de connaître la grande tradition de la musique classique de cette manière-là. Ensuite, je ne me suis pas présenté au CNSM en composition, d'abord parce que j'étais persuadé à l'époque que j'étais beaucoup trop jeune, ce que je pense est vrai. Et puis finalement, étant au Conservatoire de Paris, je n'ai pas ressenti l'envie ensuite ou le besoin de me présenter dans cette classe. Et je pense que de toute façon, la musique que j'écrivais à l'époque et que j'écris toujours aujourd'hui ne correspondait pas forcément à ce qui se faisait et à ce qui se fait encore là-bas.
Thank you.
Magnifique lamentation de Jérémy Lincipit par Liliard Ensemble, compositeur Thomas Tallis. Avec vous, Arthur Lavandier, dans le Parti d'Anjoué, il n'y a pas de miracle. Hein. C'est vrai qu'en se rencontrant, on parlait de cette forme de sérialisme intégral, mais à la Renaissance, et l'enseignement d'un professeur aussi qui vous a beaucoup marqué, Olivier Trachier. C'est peut-être une manière d'atteindre au divin. C'est-à-dire qu'on se dit... Moi, j'avais deux questions à vous poser.
Oui.
Est-ce que le sacré a une place aujourd'hui dans la composition ? C'est pas du tout une question bigote. Hein, mais,
non, bien sûr. Je pense qu'il y a une place très forte. En tout cas, oui, il y a quelque chose avec, qui a trait au cérémoniel, qui est, je pense, extrêmement puissant, qui a toujours été puissant, parce que, aussi, la musique classique, c'est quelque chose qui est cérémoniel. Ensuite, je pense que, oui, la spiritualité, le mystère, le mystique, tout ça, ça a sa place. Il suffit d'aller voir des opéras de Stockhausen ou d'écouter du Claude Vivier pour voir que c'est toujours très présent. Et puis, la musique en soi, c'est quelque chose de tellement, tellement magique et tellement invisible et mystérieux que je pense que le sacré, il est toujours là.
Puis on se dit que finalement, le reflet du monde, enfin du cosmos ici dans cette musique, pensé comme toujours en miroir avec ce qui se passe là-haut, il n'y a pas de miracle, hein, la notion de compositeur apparaît à cette époque-là, Renaissance, donc on se dit finalement en structurant un peu les choses de manière presque grammaticale, sérielle, etc., c'est aussi une manière, à l'image des cathédrales, de rejoindre la vie de là-haut. Alors, Arthur Lavandier, c'est vrai qu'il y a aussi... Bah, vous parlez de cérémoniel. J'ai l'impression aussi que dans votre démarche, vous êtes ouvert à toute forme d'interrogation sur le cérémoniel du concert. Ce que c'est que le concert,
oui,
et comment on peut casser un peu les freins imposés par le spectaculaire ou par d'autres choses. Et vous m'avez parlé d'une expérience à Aix, justement, où on pouvait fragiliser aussi l'apprentissage, le
oui,
connu.
C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que le fait de travailler beaucoup avec l'ensemble Le Balcon, et notamment son chef Maxime Pascal, voilà, ça a permis de pousser plus encore ce genre de réflexion. Alors, j'irai pas dans les clichés de la recherche musicale que sont casser les codes du concert et tout ça, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, qui est comment est-ce qu'on peut changer légèrement l'écoute du public ou la façon d'interpréter ou comment est-ce qu'on peut... Voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir sur des choses comme à quel point l'apprentissage musical d'un instrumentiste va déterminer la façon dont les compositeurs vont écrire pour ces instrumentistes, à quel point ça va déterminer la façon dont un public va écouter de la musique contemporaine. Voilà, donc j'ai pas mal travaillé sur... le fait d'essayer de casser un peu les réflexes musicaux que peuvent avoir les interprètes. Hein, avec Le Balcon, on a fait une pièce pour six altos jouées par des instrumentistes qui ne sont pas des altistes. L'idée, c'était vraiment d'essayer d'annuler le réflexe, l'habitude qu'ils ont avec leur instrument, en leur donnant un instrument qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans les mains, mais de quand même leur faire jouer une musique savante, complexe et subtile, et de voir comment eux, de leur côté, ils peuvent trouver des moyens pour, à la fin, être satisfaits musicalement, mais aussi pour voir comment le public peut changer la manière dont ils écoutent cette musique pour, finalement, se laisser porter par la musique.
Alors justement, on va se laisser porter par une musique parce que c'est un exemple que vous avez choisi, Arthur Lavandier, d'intimité absolue entre, d'un côté, le compositeur, son interprète, le public en son temps et le public d'aujourd'hui.
Thank you.
l'idée du rien rejoint très souvent l'idée de la substance et donc de l'essence. Intermezzo, 118 numéro 2, Radio Loupi, Brahms. Et c'est étonnant parce que c'est vrai qu'avec vous, Arthur Lavandier, on parle du cérémoniel, du spectaculaire, de ce qui pourrait faire écran à l'expression et puis du coup à sa communication aussi. En fait, c'est difficile de décrire cette musique-là dans ce qu'elle provoque en nous,
oui.
de fusion avec un univers harmonique.
C'est fou comme c'est une musique qui communique immédiatement avec le public. Je pourrais pas vraiment l'expliquer. Il y a une simplicité apparente d'écriture pianistique. Bon, je pense que l'interprétation y joue aussi. Mais c'est sûr que ça parle directement et ça c'est génial. Et puis avec une force, une puissance, c'est fou. Alors qu'il y a, enfin c'est pas, il y a pas grand chose dans cette musique. Harmoniquement c'est très simple, mélodiquement c'est très simple, mais c'est extrêmement puissant. Mais c'est une puissance contenue, c'est une puissance qui nous traverse lentement et qui nous change, je pense. Et ça je trouve que c'est une des grandes forces d'un compositeur, c'est de pouvoir justement... ça va être extrêmement cliché ce que je vais dire, mais c'est de pouvoir changer les gens comme ça, de cette manière, avec une puissance qui n'est pas la puissance spectaculaire et affichée, comme on pourrait l'entendre assez régulièrement. Ça, c'est autre chose. C'est une puissance, c'est presque une violence intime que Brahms nous fait dans ce morceau.
Alors, on va parler justement de la question de la violence, parce que c'est vrai qu'on en parlait entre nous. Elle est absolument fondamentale, c'est-à-dire que même dans cet intermezzo de fin de vie de Brahms, il y a peut-être une image par défaut d'une violence contenue, et on pourrait presque entendre toute la musique en réalité sous ce prisme-là.
Oui, bien sûr.
De la violence.
Oui. Des violences.
Des violences.
Oui. La violence de la jeunesse, de l'anti quelque chose, et puis cette violence-là, effectivement, la violence du vieil homme. Moi, ça me fait penser aux quatre derniers leaders de Strauss, ou même les quatre chants pour franchir le seuil de Griset. Pour le coup, oui, c'est la violence de la mort, la violence de la maladie. Mais qu'est-ce que j'aime, cette ambiance d'espèce de lenteur insupportable et d'émotions comme ça qui nous transpercent complètement. C'est mon côté vieille dame, peut-être.
Alors, c'est vrai qu'à l'opposé de ce dénuement, on va dire, spectaculaire, parce qu'il l'est réellement, qu'il soit mis en scène ou pas volontairement, il y a l'idée aussi d'essorer dans le langage et la musique tonale, l'idée de clore quelque chose, le côté « c'est bon, la fête est finie, maintenant rentrez chez vous », qu'on retrouve dans ce qu'on va entendre tout de suite, c'est Chimanovski, la troisième symphonie. Ça aurait pu être autre chose, mais c'est ça.
Oui.
Du coup, comment on doit l'entendre, ce qu'on va entendre là tout de suite, Arthur ?
Alors, c'est vrai qu'on n'est pas, du tout dans la même ambiance, mais on parlait de violence et je pense que ça peut s'accorder assez bien à cette musique qu'on va entendre. Moi, ce que j'adore dans la musique de Chimanovski, c'est effectivement qu'il réussit à pousser la musique tonale jusqu'à ses derniers retranchements. Il n'y met pas vraiment un terme parce que ce qu'il en fait est tellement différent est tellement original que finalement il ouvre plus de portes qu'il n'en ferme. Dans ce qu'on va entendre, c'est une musique orchestrale extrêmement riche, extrêmement épaisse, avec un très gros orchestre, un chœur, un soliste. Voilà. Mais moi, ce que j'adore, c'est que Chimanovski réussit à avoir ce qu'on entendait là dans la musique de Brahms, à avoir cette intimité et cette subtilité dans l'émotion, mais avec un langage plus complexe. Et là pour le coup, là, dans ce qu'on va entendre, avec une orchestration, avec une masse sonore extrêmement compacte. Et ça, je trouve ça très très fort.
Thank you.
La troisième symphonie d'un mouvement de Karol Szymanowski, Maris Janssens, le chœur et l'orchestre symphonique de la radio bavaroise. On parlait de violence contenue. C'est vrai qu'une des questions, pour, en étant un petit peu mauvaise langue, Arthur Lavandier, c'est de se dire, mais est-ce que la musique classique, jusqu'à un certain point, n'a pas essayé de masquer tout le temps, cette violence? Et puis vous m'évoquiez cette posture bouddhiste aussi de voir la violence comme quelque chose qui permet de passer à travers, d'aller derrière. Mmh. Et c'est vrai qu'on... il est quasiment 10h moins 10 sur France Musique. Il y a des gens qui pensent qu'il ne faut pas passer de clavecin à une certaine heure. Voilà, donc ça, c'est une musique de quelle heure pour vous? Idéalement.
Alors, le titre de la symphonie, c'est Lied von der Nacht. Donc, du coup, je me sens un peu obligé de dire que c'est de la musique de la nuit. Mais ça, on peut imaginer que c'est un soleil éclatant, ou que c'est de la musique du métro, ou que c'est... c'est un peu quand on veut, mais c'est une musique qui est tellement riche et qui porte tellement d'images en elle-même qu'on en fait un peu ce qu'on veut, je pense.
Alors, est-ce qu'on ose ou est-ce qu'on n'ose pas?
On ose, évidemment. Mais oui,
vous voulez faire un petit rapprochement?
Allez.
Alors, je vous propose de vous asseoir ou alors d'être prêt pour sauter. On va pas vous infliger ça longtemps, même si quand même, c'est une musique absolument géniale. Bienvenue dans le Parti d'Enjouer, si vous nous rejoignez. Surtout, gardez un œil sur la route si vous êtes au volant. Dimmu Borgir dans votre Parti d'Enjouer, Arthur Lavandier. C'est vrai qu'on parlait de violence, bien sûr, mais aussi de ce qu'on disait en tout début de Parti d'Enjouer, c'est-à-dire le mélange des genres, le symphonique avec le death metal, etc. Et puis cette forme aussi de recherche de la saturation. Est-ce qu'un compositeur qui n'a pas de violence en lui... Je dirais pas être un bon compositeur, ce serait un peu nul de demander ça, mais est-ce qu'il faut quand même préserver cette violence qu'on a en nous?
Je pense que quand en tant qu'artiste, on essaye de transmettre des émotions à un public, de raconter des histoires, je pense qu'il y a forcément une violence quelque part. Ensuite, je serais bien incapable de la définir. Je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement personnel, parce que là, on touche vraiment au cœur de ce qu'est la composition, c'est-à-dire finalement juste imposer des couleurs, des émotions, des sentiments à un public. Et ça se fait forcément dans une sorte de violence. Et puis voilà, le travail de composition, le fait de s'imposer aussi une fin à ce qui, au départ, est une idée et donc quelque chose de plutôt impalpable et infini. Dans cet acte-là, il y a aussi certainement de la violence.
Et oui, alors c'est vrai que la discussion pourrait commencer justement sur la question de la forme, des petites formes aussi standards de 10 minutes qui était un moyen assez pratique de mettre de la musique contemporaine à pas cher et en peu de temps dans des concerts. Ce qui pose problème d'ailleurs. Parce que, pour revenir à des formes un peu plus longues, on a parfois l'impression qu'on a perdu un public aussi pour cela.
Disons qu'il y a eu, je pense que très clairement, moi en tout cas, je vis assez mal le format 10 minutes pour petit ensemble. Et je pense que heureusement, on est en train d'en sortir.
Alors, on va finir sur toujours l'idée d'arrangement qui est une forme noble de composition, peut-être la plus essentielle, autour de la remise en cause du cérémoniel et puis de quoi faire d'un récital, qui était une idée absolument motrice, fondatrice d'un, comment on peut l'appeler, spectacle.
Oui, c'est
vous avez conçu, De quoi j'ai l'air.
De quoi j'ai l'air, avec Julie Fuchs, la soprano, et l'ensemble Le Balcon, dirigé par Maxime Pascal. Oui, c'est un spectacle qui est conçu autour des arrangements d'air d'opéra, de mélodies, voilà. Je fais beaucoup d'arrangements avec l'ensemble Le Balcon, donc c'est quelque chose que j'ai l'habitude de faire. On a fait une symphonie fantastique l'été dernier aussi, par exemple. Et donc là, l'idée, ce qu'on va entendre, c'est un arrangement d'un air extrêmement beau de Handel, extrêmement délicat. Moi je trouve qu'on retrouve ce qu'on avait dans Brahms dans cette musique, c'est-à-dire d'intimité incroyable. Et l'arrangement que j'en ai fait respecte, je pense, cette intimité. J'ai pas fait grand-chose, hein, vous allez voir, c'est très léger. Il y a de la guitare électrique. J'ai un petit peu chargé les accords. Je pense que j'ai ravelisé un petit peu certains passages. C'est une musique qui est en soi tellement évidente que en faire un arrangement, c'est pas très compliqué.
Et puis c'est sur un air d'Alcina, l'air de Morgana, je crois. Credete al mio dolor, c'est-à-dire croyez à ma douleur. Est-ce que ce serait pas une définition absolument parfaite de ce que c'est qu'un compositeur, de ce qu'il demanderait à son public, de croire à sa douleur?
Oh, c'est une vision très très romantique de la chose. Non, je pense pas. Je pense pas que ça soit une bonne définition. Non, je pense que c'est plutôt croyant en moi, avec un grand M.
En tout cas, moi, je vous ai cru pendant une heure. Un grand merci à vous, Arthur
Lamandier. Merci beaucoup.
Credete al mio dolor d'Alcina de Handel avec vos arrangements Arthur Lavandier, Le Balcon dirigé par Maxime Pascal et surtout la voix Julie Fuchs dans ce spectacle De quoi j'ai l'air. Un grand grand merci à vous. Éric Lancien a réalisé cette émission, Bruno Mourlan était à la prise de son et mixage avec la préparation de Jean-René Bonissant. Vous pouvez bien sûr podcaster cette émission et la réécouter tranquillement. La semaine prochaine, eh bien, ce sera le dernier parti d'en jouer. Passez un très bon dimanche soir à l'écoute de France Musique. Vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau comme si vous y étiez. Bonsoir, Jérémy.